Je m'appelle Léa, je viens de Montpellier et je voulais réagir par rapport aux gens qui réagissaient sur l'interview de Cyril Dion et du jeune du film Animal. Je trouve que les gens sont durs parfois parce que pour faire leur film, ils ont dû prendre l'avion et on ose leur reprocher. En fait, on a affaire aux personnes sans doute les plus écologiques de la France et on va leur reprocher d'avoir pris l'avion pour faire un documentaire et d'être dans la seule école qui correspond à ses études mais qui est financée par la BNP. En fait, personne n'est parfait. Il faut arrêter de jeter la pierre sur ceux qui sont particulièrement en force et en accord avec la nature au maximum. On a tous nos faiblesses et si on doit taper du poing sur quelqu'un, c'est ni sur Cyril Dion, ni sur les deux enfants, sur tous les autres qui foutent rien. Merci.
Oui, ici Monique de Paris. J'ai écouté l'émission là, sur la Loire. Bon, il y avait de bons passages, mais je voudrais quand même signaler que la Loire est très dangereuse. Il y a des tourbillons, même près du bord, c'est dangereux de se baigner, et même des sables mouvants. Attention, attention. Et ce n'est pas toujours indiqué. Eh bien, merci pour votre émission, je l'écoute très souvent, si je ne dors pas, parce que c'est la sieste. Merci.
La foudre. Dans les années 70, un collègue à mon père, lors d'une pause à l'extérieur donc de l'usine où il travaillait, une chaîne en or autour du cou, la foudre est venue faire le tour de la chaîne en or et est retombée par terre. Bon, il a été un peu brûlé, mais pas donc fulguré. C'est curieux, parfois on peut avoir des matériaux soit qui attirent justement la foudre.
Bonjour, je m'appelle Monique, j'habite près de Saint-Flour dans le Cantal et je vous téléphonais au sujet des vaches. Simplement pour dire que lorsque l'hiver approche, qu'elles sentent le mauvais temps, elles se rapprochent des bâtiments. Elles ressentent le temps à venir. Ce sont des animaux fabuleux, très sensibles. Merci.
Salut, c'est Yann du Maine-et-Loire, où pas loin du fleuve poussent les arbres fruitiers. D'abord, le plaisir d'entendre Guy Vanctil aux Maldives. Reportage très intéressant de l'ami Guy. On oscille entre consternation et dégoût face au pouvoir infini de l'argent. Ensuite, les ventes d'avions de chasse à Mohamed Belsalman, justifiées avec fierté par la création d'emplois en France. On oscille entre hallucination et affligement, pouvoir sans borne de l'argent. Enfin, tous ces combats citoyens dans l'Annie Anton Show et le Relais, des combats ordinaires du quotidien, face à cette précarité en hausse et contre la toute-puissance des billets de banque. Vive les initiatives locales et bravo à vous Camille et Mathieu pour votre belle émission. À bientôt.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
La très forte augmentation des prix de l'énergie ces derniers mois a remis sur le devant de la scène le gaz naturel, souvent présenté comme une énergie de transition pour la production d'électricité. Le terme « naturel » induisant une connotation positive pour ce combustible fossile. La France souhaite d'ailleurs, aux grandes dames des ONG, faire classer le gaz naturel dans la taxonomie verte européenne qui vise donc à définir les activités jugées compatibles avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne. Bruxelles finalisera d'ailleurs cette classification le 22 décembre. En attendant, les ONG accusent la France de jouer le jeu des énergies fossiles en tournant le dos au climat. Alors pourquoi parle-t-on encore du gaz naturel comme d'une énergie de transition et quels sont les enjeux géopolitiques autour de ce gaz? Eh bien c'est le dossier cet après-midi de la Terre au carré. Avec nos invités que je salue, Anna-Léna Rebaud et Patrice Geoffron, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue Anna-Léna Rebaud, vous êtes chargée de campagne aux Amis de la Terre où vous travaillez en particulier sur le financement aux énergies fossiles avec la transition du secteur pétrolier et gazier. Et Patrice Geoffron, vous êtes vous professeur d'économie à Paris Dauphine, directeur de l'équipe Énergie Climat. Vous avez aussi fait partie de l'équipe qui a accompagné la convention citoyenne autour des questions énergétiques. Voilà, vous allez donc éclairer les auditeurs sur la question du gaz naturel et répondre aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr, la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'appli Inter avec les notes vocales. Voilà, tout est dit. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et Shell cherche du pétrole et du gaz justement au large de l'Afrique du
sud en balançant d'énormes jets d'air comprimé dans l'eau, donc au détriment de la vie marine, d'après des opposants qui crient « Go to hell, Shell ».
Et bien voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati, avec Jenab Sangaré à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
T'as craqué, mamie. Tes cheveux, tu comptes vraiment les laisser comme ça?
Oh, sois moderne, dis donc, à ton âge. C'est qui le vieux ici?
C'est pas une question d'âge.
Bonjour, monsieur Ferrand.
Oh, madame Dubreuil. Ah, mais dites-moi, c'est pas le petit-fils?
Si, Cédric, c'est celui qui travaille dans le gaz.
Il travaille dans le gaz? Oui. Oh, ben il manque pas d'air, alors. Un jeune qui travaille dans une énergie fossile, c'est quand même un comble, hein.
Le gaz,
non, mais je veux dire, il y a pas d'avenir là-dedans, quoi. Maintenant, l'énergie, c'est le solaire, les éoliennes.
Juste un moment, le solaire, ça marche très bien avec le gaz naturel.
Bon, s'il n'y a plus rien à inventer, hein, le gaz, ça se dégonfle.
Voilà, extrait d'une vidéo réalisée pour GRDF, donc Gaz Réseau Distribution de France, pour, vous vous en doutez, déringardiser au contraire le gaz naturel. Est-ce que c'est vraiment l'énergie de la transition? En tout cas, c'est la question qu'on pose aujourd'hui dans l'émission avec vous, Anna-Léna Rebaud et Patrice Geoffron. On va tout de suite faire un petit point de sémantique pour essayer d'éclairer le sujet et ce terme de gaz naturel, puisqu'en fait, bah, il est assez trompeur quand même, Anna-Léna Rebaud, hein.
Oui, en fait, l'origine du terme gaz naturel, c'est par opposition au gaz de ville, qui était du coup le gaz utilisé au 19e siècle et début du 20e siècle. Gaz naturel, en fait, c'est le gaz qu'on retrouve dans les couches terrestres. Enfin, c'est l'énergie fossile qui résulte de la décomposition de matière organique. Donc c'est pour ça qu'on parle de gaz naturel, mais ça reste un gaz fossile.
Et donc émetteur de gaz à effet de serre.
Tout à
c'est
fait.
Comme si on disait pétrole naturel, finalement.
Exactement, ouais. Ou charbon naturel.
Sauf qu'on n'emploie pas ce terme, évidemment. Alors, Patrice Geoffron, gaz naturel, on aurait presque envie de dire biogaz aussi. Or, on ne parle pas de la même chose. Hein.
Non, pas du tout. Je pense que par rapport au petit sonore que vous avez diffusé, je pense qu'il y a également un élément qui est lié à l'accession à la modernité par rapport à une époque. On était dans les années 50, 60, où il y avait encore une partie de la France qui se chauffait avec des boulets de charbon ou du bois par ailleurs. Et donc, voilà, dans l'espèce d'élan qui était reflété par ce sonore, je pense qu'il y a cette idée d'accès à la modernité. Mais bon, l'essentiel a été dit, évidemment, on est en présence d'une énergie fossile.
À ne pas confondre, comme disait Mathieu, avec biogaz, hein. Faut pas
exactement,
mélanger.
Et j'imagine qu'on va beaucoup en parler. Donc le gaz peut devenir naturel au sens de vert s'il est produit différemment, notamment à partir de déchets. Là, on est dans des logiques d'économie circulaire, mais de fait, à partir de là, il ne s'agit plus du gaz fossile qui se trouve enfoui quelque part à quelques centaines ou milliers de mètres.
Ouais, et même le biogaz fait l'objet de discussions pour son aspect justement naturel, parce qu'on verra qu'il n'est pas non plus forcément totalement vertueux. Camille, il y a justement une question aussi autour du terme. Hein.
Patrick nous dit, plutôt que de parler de vert, est-ce que vous pourriez plutôt qualifier les énergies dont vous parlez de décarbonées? En effet, le qualificatif bas carbone représente la réalité de ce qui est recherché, alors que vert, c'est plutôt vague, ou alors ça fait référence à un parti politique, par conséquent, risque d'induire en erreur l'auditeur. Il y a beaucoup, finalement, de... Est-ce qu'on peut parler, Anna-Léna Rebaud, d'une sorte de marketing sémantique autour de tout ça?
Oui, tout à fait. Les expressions qui sont utilisées pour parler des énergies fossiles ou des énergies en général sont pas du tout anodines. Il y a derrière des études aussi qui vont étudier la perception du public. Et par exemple, il y a eu des études qui ont montré que gaz naturel, c'était perçu par le public comme quelque chose de plus positif que le gaz fossile. Donc c'est pas du tout anodin de la part de l'industrie fossile de marketer, en fait, enfin de donner une image verte à ces produits.
On voit des camions rouler très fièrement, je roule au gaz naturel, par exemple, comme si c'était...
Ou les bus en ville, ouais.
Exactement. Ben, moi, la première fois que j'ai vu le terme gaz naturel, c'était il y a des années, typiquement sur un bus. Et ma première réaction, ça a été de me dire, bah, naturel, bio, ça doit être quelque chose de positif.
Ouais. Alors qu'on parle bien d'une énergie fossile, hein. Il faut être très clair. Vous seriez, Patrice Geoffron, finalement, pour changer le terme aujourd'hui, pour qu'il y ait moins, justement, d'ambiguïté?
Écoutez, je sais pas comment on clarifie tout ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé l'an dernier sur l'hydrogène, dans lequel l'hydrogène, c'est encore plus merveilleux, parce qu'il y a l'hydrogène vert, qui est produit, eh bien, à base de... d'éolien et de photovoltaïque, mais il peut être jaune également s'il est partiellement à base de nucléaire ou il est rose s'il est totalement à base de nucléaire, il peut être bleu s'il est à base de gaz et capturé.
Ça devient compliqué tout
pour
ça.
Pour l'essentiel, hein. De la réalité des choses à l'heure actuelle, c'est qu'à 95% au niveau mondial à l'heure actuelle, l'hydrogène est gris.
Ouais. Qu'est-ce que ça représente le gaz naturel en matière de consommation d'énergie en France aujourd'hui ?
Alors, il y a différents usages du gaz. C'est principalement utilisé pour du chauffage. En Europe, c'est 40% de la consommation du gaz qui va vers le chauffage des domiciles ou des bureaux aussi. Mm-hmm. C'est 20% de la production d'électricité en Europe. Oui. En France, c'est moindre puisque la part du nucléaire est beaucoup plus importante.
C'est 15 à peu près en France, c'est ça ?
Oui, 15 ou moins de 10%, même parfois j'ai vu des chiffres passer. Il y a ça, mais c'est aussi le gaz, c'est aussi une matière première en fait de l'industrie pour le raffinage, pour la pétrochimie, mais aussi par exemple pour la production d'engrais. Donc là, on vient d'évoquer l'hydrogène. Le gaz en fait sert à fabriquer de l'hydrogène qui derrière va permettre de fabriquer des engrais azotés de synthèse. Donc ça a tout un tas, c'est une palette d'usages différents.
Vous parliez du gaz des villes tout à l'heure, donc c'est le gaz naturel qui a remplacé, Patrice Geoffron, le gaz des villes qui était quand même ultra polluant.
Qui était très polluant, qui servait notamment à l'éclairage. Et à nouveau, donc cette transition finalement qui va du charbon au gaz, c'est ce qui a pu conférer au gaz dans la deuxième partie du XXe siècle, voilà cette perception de grande modernité. Il y a également un autre facteur qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais qui est pas négligeable, c'est la problématique liée à la qualité de l'air.
Oui.
Enfin, dès lors, et elle va être drastique dans les temps à venir, elle est d'ores et déjà dans les pays émergents, en Chine, en Inde. Au moment de la clôture de la COP26 à Glasgow, l'Inde, qui dans le même temps s'opposait à l'idée de s'engager collectivement vers la sortie du charbon, était en obligation de fermer ses écoles, compte tenu encore une fois de la détérioration de la qualité de l'air, assez largement, pas uniquement, mais assez largement dû à l'usage du charbon.
Ouais, et le gaz naturel a réduit justement ces pollutions de façon assez remarquable.
Alors, oui, lorsqu'on va à New Delhi, ça saute pas encore aux yeux, mais en tout cas, dans les pays émergents, mais ça n'est pas le cas de la France, mais ça peut être une problématique chez certains de nos voisins, en Allemagne, en Pologne. La question est de savoir par quoi remplacer les centrales à charbon qu'il va falloir fermer de manière urgente, parce que là, on a finalement le pire des deux mondes, avec à la fois des émissions de gaz à effet de serre qui sont très élevées, mais également des polluants locaux, dont l'Agence européenne de l'énergie nous a dit tout récemment qu'elles étaient encore à l'origine, en Europe, de 300 000 morts par an. Alors, tout n'est pas attribuable au charbon, mais de fait, c'est une partie du problème.
Anna-Léna Rebaud, en quoi le gaz fossile, le gaz, est-il aujourd'hui responsable d'une partie du réchauffement climatique ?
Alors, on parle souvent du gaz comme une énergie de la transition, au sens où, au moment de la combustion, ça émet moins de gaz à effet de serre que le charbon. Mais en réalité, ce qu'il faut prendre en compte, c'est toute la chaîne d'approvisionnement. Et en fait, tout du long de la chaîne d'approvisionnement, donc au moment de l'extraction, du transport, de la transformation, on observe des fuites de méthane. En fait, le gaz naturel, il est composé majoritairement de méthane, qui est un gaz à effet de serre 84 fois plus puissant que le CO2 sur 20 ans. Donc le méthane, c'est
90%, c'est ça à peu près du gaz naturel,
c'est, oui, c'est
du méthane,
donc
il y en a énormément. Oui.
Exactement, et le méthane, c'est la deuxième responsable du réchauffement climatique derrière le CO2.
Avec donc ce gaz à effet de serre extrêmement puissant, vous le disiez, 30 fois supérieur par rapport au CO2. Et la question des fuites de méthane, on va en parler avec vous dans un instant, Patrice Geoffron. On va écouter l'extrait d'abord de ce reportage de France Info, c'était en novembre dernier.
Des pays minimiseraient leurs émissions de gaz à effet de serre dans les rapports qu'ils remettent à l'ONU. C'est ce qu'affirme une enquête du Washington Post. Premier exemple, la Russie. Ce climatologue a participé à l'enquête. À l'aide de ses études satellites, il a pu identifier des fuites de méthane sur le territoire. Elles ont donné lieu à un important panache de fumée qui n'a pas été répertorié dans le rapport que le pays a remis aux Nations Unies.
On peut voir en fait sur ces images la teneur moyenne de méthane et puis à l'endroit où il y a la fuite, le vent vient par là, on a en fait un panache qui est déplacé. Ce jour-là, il y a eu un événement particulier très important qui devrait être comptabilisé dans l'inventaire bien sûr.
Mais la Russie ne serait pas le seul État à sous-estimer ses émissions de gaz. Les fuites de méthane provenant des États pétroliers du Golfe Persique pourraient être jusqu'à 7 fois supérieures à ce que les pays rapportent officiellement.
Extrait de France Info du vrai ou fake en novembre 2021 avec Philippe Sieck, qui est chercheur au Labo des sciences du climat et de l'environnement. Patrice Geoffron, ces fuites de méthane, elles sont loin d'être négligeables justement dans le bilan carbone du méthane, du gaz naturel.
Oui, tout à fait, il faut absolument les prendre en considération. Il peut à la fois y avoir des fuites de méthane à l'amont au moment de l'extraction, parfois au moment de l'extraction pétrolière, et ce pétrole peut être combiné avec du gaz naturel. Il peut y avoir également des fuites dans les réseaux, notamment dans des pays qui ne maintiennent pas à niveau leur réseau de transport de gaz, donc les gazoducs ou les canalisations d'adduction du gaz au plus près du point de distribution. Tout ça demande des investissements considérables et on peut se retrouver, encore une fois, dans des économies dans lesquelles on a négligé la mise à niveau de ces infrastructures, ou alors dans des modèles économiques, si on peut dire, ça peut être le cas du gaz de schiste aux États-Unis où certaines entreprises assez fragiles, des PME, il y avait beaucoup de PME à une époque dans l'extraction du gaz de schiste aux États-Unis, finalement n'ont pas fait l'effort ou ont fait les investissements qui étaient trop fragiles pour juguler ces fuites de méthane.
Ouais, et ce chercheur signalait justement le fait que beaucoup de pays ne signalent pas ces fuites de méthane, donc ça c'est aussi un problème à prendre en compte, Anne-Léna Rebaud. Hein.
Bah, en fait, il n'y a pas d'obligation à surveiller les fuites de méthane et à les rapporter, c'est un peu le cœur du problème.
Mais ce qui paraît incroyable quand même, non ?
Oui.
Alors que le monde entier fait justement la chasse aux émissions de gaz à effet de serre, Patrick Geoffron, on n'est pas autorisé, on n'est pas obligé de faire ces déclarations.
Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que la COP26, encore une fois, sous réserve de vérification, de mesures, etc., mais c'est le cas pour toutes les coalitions qui sont formées à la COP26, mais de fait, une coalition d'une centaine de pays s'est formée avec comme objectif de réduire les émissions de méthane de 30%. En 2030. Et l'Europe est partie prenante de ces engagements. On trouve les États-Unis, le Brésil notamment, l'Indonésie, le Pakistan, etc.
Donc ça veut dire colmater les fuites, par exemple, aussi un vrai travail ?
Ah, de fait, ça ne pourra pas se faire sans un travail dans lequel il va falloir à un moment, évidemment, travailler en particulier sur les infrastructures et puis travailler sur l'amont au moment de l'extraction.
Ouais. Mais on arrive à le quantifier, ça, le poids de ces fuites aujourd'hui dans les émissions justement de gaz à effet de serre ou pas ?
Alors, je pense qu'on peut les approximer. De fait, il y a des évaluations et notamment celle du GIEC dans ce domaine. Et il y a ce qui a d'ores et déjà été souligné, à savoir un effet beaucoup plus condensé. Le cycle de vie, si on peut dire, du méthane est beaucoup plus condensé celui du CO2. Ça veut dire que si on parvient à réduire les émissions de méthane durant cette décennie, eh bien on aura un effet de levier important dans une décennie qui sera décisive. Et l'effet inverse si on n'y parvient pas.
En tout cas, c'est un des talons d'Achille justement du gaz naturel, hein, ces fuites de méthane. On en parle cet après-midi, c'est le dossier de la Terre au carré avec vos questions et vos messages.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner.
Et c'est le cœur du monde, extrait du dernier album de Bernard Lavilliers.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour, c'est Fabrice de Nantes. Le gaz est une énergie fossile qui présente des qualités par rapport au pétrole et qui a des réserves mondiales très importantes. Alors le danger pour nous tous ici serait de trop verdir cette énergie, car cela nous donnerait bonne conscience dans la poursuite d'un modèle de développement énergivore et polluant. Attention donc, sujet explosif. Merci.
Voilà, très bon résumé, hein, notre auditeur Fabrice qui vient de nous laisser cette note vocale sur l'appli France Inter. Il nous appelle donc de Nantes pour parler donc du gaz naturel avec vous, Anna-Léna Rebaud des Amis de la Terre et Patrice Geoffron, donc professeur d'économie. Tout à l'heure, on parlait justement des fuites de méthane. Juste encore un mot là-dessus, Anna-Léna Rebaud, parce qu'effectivement, il y a de l'argent qui va être mis pour essayer de lutter contre ces fuites. Et vous nous disiez finalement en antenne, ça paraît être une aberration de mettre beaucoup de financement là-dessus. On devrait les mettre ailleurs.
Oui. En fait, aujourd'hui, le constat scientifique, il est très clair. Il faut diminuer dès aujourd'hui notre consommation de gaz. C'est chiffré de l'ordre de 3% d'ici à 2030. Donc, il y a un consensus scientifique très clair. Et donc, là, cette coalition à la COP26, du coup, la coalition de la COP26 a voulu limiter du coup ces fuites de méthane. Mais si on commence à mettre des efforts pour colmater ces fuites-là, ça veut dire en fait on va mettre des investissements supplémentaires là-dedans. Alors que ce qu'il faut actuellement, c'est surtout investir dans la transition énergétique.
On n'est pas du tout dans cet esprit de baisse de consommation, Patrice Geoffron, du gaz naturel. Au contraire, les perspectives elles donnent beaucoup plus de consommation de cette énergie fossile.
C'est en tout cas un des facteurs qui explique à l'heure actuelle la crise des prix énergétiques dans laquelle nous nous trouvons. En Europe, avec cette augmentation conjointe, enfin, du prix du pétrole d'un côté, laissons-le de côté, mais du prix du gaz et par contre-coup du prix de l'électricité, parce qu'il y a une forme de concurrence qui s'établit entre différentes zones du monde et notamment avec l'Asie et en particulier la Chine, et qui fait que le gaz, qui ne se transporte pas que par gazoduc, mais également sous forme liquéfiée par bateau, a plutôt tendance à aller en Chine qu'aller en Europe. En tout cas, les prix s'en trouvent tirés vers le haut très fortement.
Ouais. Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui le plus de gaz sur Terre ? Les gisements se trouvent majoritairement dans quelle zone ? Est-ce qu'il y en a vraiment partout, Patrice Geoffron ou...
Alors en tout cas, il y a une plus grande répartition, surtout si on intègre le non conventionnel que pour ce qui est du pétrole. Après, sans surprise, vous allez retrouver, ça nous intéresse évidemment, nous, tout particulièrement européens, chez notre voisin russe, qui a des réserves extrêmement importantes, de l'ordre, je crois, de 20% du total. Et parmi les préoccupations que nous avons à l'esprit, c'est que finalement, tendanciellement, nos fournisseurs avec lesquels on a uniquement des relations commerciales, c'est le cas de la Norvège, par exemple, avec plutôt des relations, disons, voilà, fondées sur le commerce, voient leurs réserves diminuer et donc on a mécaniquement vocation à importer de plus en plus de Russie, ce qui évidemment est un souci. Ça veut dire qu'à contrario, tout le gaz qu'on n'importera pas, notamment parce qu'on parviendra à le produire chez nous, du biogaz, du biométhane, aura également une espèce de contenu assurantiel, c'est-à-dire fera baisser
sur la
pression.
La dépendance.
La pression géopolitique, et il se trouve qu'on est en train de l'observer à l'heure actuelle.
Anna-Léna Rebaud, il y a cette vraiment dépendance à la Russie qui pose beaucoup de problèmes et de tensions, d'ailleurs géopolitiques, via l'Ukraine aussi. Les importations de gaz russe en Europe, c'est 40%, je crois, si on cite les chiffres.
J'avais 20% en tête pour le coup, mais il me semble que...
Moi j'avais 40% de gaz importé en Europe provient de la Russie, mais je vous fais confiance.
Je crois qu'il y a une différence entre par gazoduc et par cargo, par méthanier.
En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une grosse dépendance et que la France essaye aussi de pouvoir imaginer d'autres solutions.
Oui, en fait, il y a une grosse dépendance à la Russie, mais en fait, il y a une grosse dépendance aux énergies fossiles en général, et c'est à cette dépendance-là qu'il faut s'attaquer. Et ça passe par des modifications d'usage qu'on a au quotidien, mais aussi par des transformations de secteurs complets. Et par exemple, je citais au début de l'émission l'industrie des engrais, qui dépend énormément du gaz. Là, il y a une augmentation des prix du gaz, qui mécaniquement a fait augmenter le prix des engrais, qui ont doublé, voire triplé pour certains engrais. Et ça va se répercuter sur le prix de l'alimentation l'année prochaine. Donc en fait, la dépendance aux énergies fossiles, elle affecte pas seulement le monde énergétique, elle affecte aussi plein d'autres secteurs de l'économie.
Avant de passer aux questions des auditeurs avec Camille, le prix, l'augmentation justement du gaz naturel, alors on peut même parler de gaz fossile, si on veut changer le terme, c'est combien en pourcentage, puisqu'on a vu l'explosion des prix?
Alors ça dépend de comment on le mesure.
Et d'où on part.
Et d'où on part, tout à fait. Depuis le début de l'année, c'est en gros une augmentation de 400 à 500% du prix.
Patrice Geoffron, un commentaire sur ce chiffre.
Sur le marché de gros, n'allons pas affoler les auditeurs. Enfin, il y a des mécanismes qui viennent amoindrir cet effet, en tout cas pour la France. Mais on doit se préoccuper également de ce qui se passe par ailleurs en Europe. Il y a beaucoup de pays européens dans lesquels c'est un drame absolu. avec une montée de la précarité énergétique qui est extrêmement forte, donc chez les pays qui sont plus dépendants que nous le sommes de cette énergie fossile.
Et ça se traduit sur les factures aussi des Français, on en parlera dans un instant.
Estelle, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Patrice Geoffron, que sur le gaz naturel qui permet de limiter, on va dire, la pollution de l'air. Elle demande ce que vous pensez du gaz naturel utilisé sur les paquebots. Les compagnies de croisière communiquent en avançant justement ces arguments de diminution, notamment de particules fines. Donc première question, je vous en donne une deuxième. Michel qui nous écrit, le gaz naturel, oui, est une énergie fossile, mais transition veut dire que sur 20 à 30 ans, ce gaz peut se substituer par exemple au nucléaire. C'est donc transition dans le sens moins mauvaise transition. Alors, première réaction sur les bateaux de croisière.
Sur les bateaux de croisière. Alors pour les bateaux de croisière, il y a deux effets. Il y en a un qui est lié au fait de moins émettre de CO2 en remplacement d'un fuel qui est souvent un fuel lourd. Donc là, il y a un effet qui est sensible, mais qui n'est pas une révolution. Et puis, il y a l'effet qu'on peut observer, par exemple, dans le port de Marseille, d'amélioration de la qualité de l'air. Et je trouve que la question s'est posée à Marseille parce qu'il s'est avéré que finalement, les Marseillaises et les Marseillais avaient beau faire beaucoup d'efforts, enfin, ou ne pas en faire, mais de fait étaient dans un air très pollué du fait des bateaux. Et donc, on est tout à fait fondé à se demander à quoi bon améliorer les transports du quotidien, etc., si tout se joue. Donc là, il y a un enjeu qui est tout à fait spécifique, étant entendu qu'à un horizon un peu plus lointain, à partir des années 2030, la solution pourrait être, ou un peu au-delà même, l'hydrogène. Et donc, à court terme, voilà, on a une forme d'exemple de remplacement par du gaz fossile.
Et sur le terme de transition, alors là, Annalena Rebaud, vous allez peut-être pouvoir rebondir. Est-ce que finalement, comment il dit Michel, une transition, la moins mauvaise transition, est-ce que ça suffit pour les militants que vous êtes aux Amis de la Terre?
Non, pas du tout. En fait, pardon, j'ai un trou sur la question.
Sur la transition.
Le gaz comme transition, ouais. Lui, il dit, c'est une moins mauvaise transition. Enfin, c'est la moins.
Oui, en fait, c'est l'idée d'utiliser le gaz pendant quelques années en transition d'ici à ce qu'on ait suffisamment d'énergie renouvelable. Mais en fait, ça prend pas en compte les effets de verrouillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des nouvelles infrastructures gazières, mais qui vont en fait peuvent être rentabilisées seulement sur plusieurs décennies. En général, c'est 30 à 40 ans pour rentabiliser une infrastructure gazière. Donc, quand on investit aujourd'hui dans ces infrastructures-là, on a deux solutions. Soit on va arrêter de les utiliser au bout d'un certain temps, ce qu'il faut faire si on veut réussir à conserver le réchauffement climatique sous 1,5 degré. Et à ce compte-là, en fait, on va avoir un problème que j'expliquerai après. Soit, en fait, on va continuer à les utiliser et on va dépasser nos objectifs. Si on les arrête à temps, alors qu'on a investi dedans, il va y avoir un manque à gagner pour les industries fossiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui sur le secteur du charbon, c'est-à-dire que les entreprises fossiles vont aller voir les États, demander des compensations, voire les poursuivre en justice, ce qui est possible grâce au traité sur la charte de l'énergie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on observe sur le charbon, en fait. Par exemple, l'énergéticien allemand RWE a annoncé qu'ils allaient poursuivre l'État néerlandais en justice pour sa politique de sortie du charbon, parce que ça leur coûte 1 milliard. C'est un manque à gagner pour eux de 1 milliard d'euros. Donc ça, c'est un vrai scénario possible. Si on continue aujourd'hui à investir dans des infrastructures gazières au motif que ce serait une énergie de la transition, c'est un problème.
Mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, l'urgence climatique ne peut pas s'offrir le luxe d'une transition. C'est aussi ça que ça veut dire, non?
Oui, c'est ça. En fait, on parle sans cesse d'un réchauffement climatique à 1,5 degré et de la nécessité de le limiter là-dessous. Mais en fait, 1,5 degré, c'est déjà un drame. Et nous, aujourd'hui, ce pour quoi on se bat, c'est chaque dixième de degré. En fait, on se bat pour limiter la casse.
Allez, on y revient dans un instant. Il y a encore beaucoup de questions pour vous, qui êtes donc les invités de la Terre au Carré, pour parler du gaz naturel ou plutôt du gaz fossile.
France Inter. La Terre au Carré.
À 14h32, on passe au vert, Camille Cronier.
Et je vous emmène sur les plages d'Afrique du Sud, mais pas pour vous faire écouter les vagues, non. Le week-end dernier, au Cap, comme à Port-Elisabeth, l'ambiance était plutôt ça. Des centaines de manifestants le long des côtes appelant à boycotter Shell, avec aussi des slogans comme « Go to hell, Shell ». Le géant anglo-néerlandais fait depuis le 1er décembre ce qu'on appelle des explorations sismiques au large de la Wild Coast, la côte sauvage qui compte plusieurs réserves naturelles et marines protégées. Ça veut dire que Shell propage des ondes de choc dans l'eau avec des bateaux équipés de canons à air pour réaliser une sorte de carte des fonds marins. et voir s'il y a des hydrocarbures dans le coin. De l'air comprimé très puissant et sonore, envoyé jour et nuit, toutes les 10 secondes, dans une zone de 6000 km² pour les 5 prochains mois. On est très inquiet au sujet des impacts que ça va avoir sur la vie marine, dans un lieu qui est connu pour sa biodiversité, unique. C'est un trésor, dit cette militante de l'association Greenpeace, qui a fait un clip à l'attention des dirigeants de Shell, image et son comme une bande-annonce de film catastrophe.
We ask you, please put down your weapons and stop your quest for oil in South Africa.
Greenpeace demande à Shell, au nom de la faune marine, mais aussi des habitants qui en dépendent, de poser ses armes, je cite, et de cesser la recherche de pétrole et de gaz en Afrique du Sud. Mais l'entreprise ne compte pas arrêter, d'autant que le tribunal lui a donné raison vendredi, en estimant qu'il n'y avait pas de preuve de l'impact sur la vie marine. Le ministre sud-africain de l'énergie, Gwede Mantashe, avait dit exactement la même chose la veille.
L'impact potentiel sur la vie marine a été étudié au fil des ans et il n'y a aujourd'hui aucune preuve tangible ni conclusion scientifique globale qui montre que ces explorations sismiques ont causé des dommages irréparables sur la vie marine, mammifères et poissons compris. Il n'y a pas de preuve.
Voilà, mais les opposants n'en démordent pas.
Je déteste penser aux animaux dans l'océan, la douleur, la mort et la destruction que ces explorations vont entraîner. Comment est-ce possible que ça ne fasse aucun dégât? Je ne suis pas chercheur, pas scientifique, mais en tant qu'être humain, j'imagine que oui, ça doit faire des dégâts pour les plantes, les animaux, la vie marine et les humains à l'arrivée.
Alors cet air comprimé, ces ondes très puissantes, je le disais, suffisamment pour arriver jusqu'au fond de l'eau, imaginez. Hervé Glotin les connaît, bioacousticien à l'université de Toulon, est toujours fourré dans l'eau avec ses micros, près des cétacés en particulier. Il est formel, oui, il y a des conséquences. Première option.
On sait que ça, si l'animal est proche, un impact permanent sur le système auditif de l'animal. Il aura une perte auditive. Une perte auditive chez ces animaux, c'est une perte de durée de vie, puisque ils vont avoir une perception beaucoup plus faible de leur proie et ils vont se déplacer nettement moins bien.
Deuxième option.
Chez certaines espèces, ça peut être pire que ça. Ça peut être un stress, une peur, panique. Et une remontée rapide, par exemple chez la baleine à bec de Cuvier, c'est connu, une montée rapide en surface qui lui provoque des embolies pulmonaires. Et donc la mort très rapide en quelques minutes.
Et la troisième.
Ça va déplacer sur plusieurs mois les populations de mammifères marins qui vont fuir ces impulsions parce qu'elles sont soit, comme je l'ai dit, létales, soit insupportables. Donc ils vont se déplacer pendant plusieurs mois. Et donc il y a un impact conséquent sur la reproduction, sur l'année suivante. Il y aura nettement moins, c'est fort à parier, nettement moins de naissances sur plusieurs espèces.
Sachant que le tout, évidemment, est cumulable. Hein. Mais voilà, et là c'est vrai, aucune étude globale n'a jamais été faite, tout simplement parce que pour ça, il faudrait pouvoir suivre les explorations de toutes ces entreprises sur le long terme, donc qu'elles se prêtent au jeu. En tout cas, Shell, sur ses opérations actuelles, assure prendre toutes les précautions pour éviter, je cite, ou minimiser l'impact sur les poissons, les mammifères marins et autres espèces sauvages, avec notamment des arrêts s'il y a de la vie marine dans les 500 mètres. Mais les ondes et le boucan associé, de toute façon, se répercutent bien au-delà, hein, à des kilomètres. Et puis des signaux aussi, des fréquences envoyées pour prévenir en quelque sorte qu'un truc pas cool va se passer et pouvoir éloigner le peuple sous-marin. Mais tout ça, donc, vient perturber tout le monde et les militants s'y opposent par tous les moyens, y compris en chanson. That Shell should go and f*** themselves, and the wild coast should be left alone. Voilà, une reprise d'Imagine que je ne saurais trop vous conseiller.
Merci beaucoup Camille Cronier, on est passé au vert et c'est à réécouter bien sûr sur la page de la Terre au Carré.
Anna-Léna Rebaud, les explorations, là, que ce soit les explorations sismiques pour trouver du gaz, du pétrole peut-être au large de l'Afrique du Sud, les explorations pour trouver du gaz, ça a aussi un impact, là nous on parle de climat dans l'émission, mais ça a des impacts sur tout ce qui est biodiversité, sur tout le vivant qu'il y a autour.
Oui, tout à fait, on a beaucoup parlé des impacts climatiques du gaz et de l'extraction du gaz en général, mais il y a aussi tout un tas d'impacts environnementaux environnementaux sur la biodiversité, mais aussi des impacts sur les droits humains. Dans beaucoup de cas, là, on parle d'exploration au large de l'Afrique du Sud. Juste à côté, il y a le Mozambique, où il y a déjà, en fait, des projets gaziers en cours de construction. Et là-bas, ça a nécessité le déplacement de centaines de familles qui n'ont pas été, en fait, relogées correctement. Et en plus, ça a mis le feu aux poudres à un conflit qui, aujourd'hui, a fait plus de 750 000 déplacés.
Là, vous parlez du projet Total en Ouganda. Hein.
Non, Mozambique.
Mozambique.
Oui, je parle de projets au Mozambique, sachant qu'il y en a trois différents, dont un de Total.
On y reviendra tout à l'heure. Patrice Geoffron, une réaction sur ce sujet, sur justement ces convoitises dans des zones pourtant protégées. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Écoutez, c'est des sujets sur lesquels moi j'ai assez peu travaillé. Je sais que notamment sur le pour rebondir sur la question qui avait été posée, l'extraction du gaz de schiste a pu provoquer, ça a été le cas en Grande-Bretagne par exemple, de la microsismicité avant un impact sur sur l'immobilier. Mais je reviendrai volontiers à la question de la transition qui me semble absolument essentielle. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait que, évidemment, s'il s'agit de construire des centrales électriques qui entraveront plus tard la transition énergétique, évidemment, ça pose un problème. Et la question peut se poser, notamment dans les pays émergents et dans des États globalement qui seraient fragiles et dont les... la démarche en termes institutionnels ne conduirait pas vers la neutralité quelque part au milieu du siècle. Je pense que la question se pose quand même assez différemment en Europe. Le gaz, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, même en Allemagne, est un élément absolument indispensable de l'accélération de la transition. L'Allemagne s'est engagée à être neutre, non pas en 2050, mais en 2045, et doit fermer ses centrales nucléaires en 2022 et... au mieux, en 2030, ces centrales à charbon. S'il n'y a pas dans tout ça un peu de gaz, évidemment, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Mais à la condition, naturellement, que dans le même temps, le gaz fossile soit progressivement remplacé par du gaz vert et puis un peu plus tard par de l'hydrogène. Donc, il y a une espèce de mécano qui est un mécano extrêmement compliqué, mais qui, me semble-t-il, en Europe, rend assez difficile, notamment, encore une fois, de l'autre côté du Rhin, une accélération sans mettre un peu plus de gaz.
Ouais. Allez, on y revient dans un instant, ce sera l'objet de notre discussion avec d'autres messages pour vous. C'était General Electric à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré,
Le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Pour 2021, j'ai subi une augmentation de 186,74 €. C'est pas possible. Ça veut dire que maintenant, cette année, on va réduire la consommation de gaz. On va moins chauffer.
Comme cette cliente au tarif réglementé, 3 millions de Français sont concernés. Et pour une famille de 4 personnes dans une maison de 100 mètres carrés, les hausses cumulées depuis janvier représentent 54% de plus sur leur facture, soit 613 €. Pour les spécialistes, le phénomène devrait continuer.
La France ne produit pas ou quasiment pas de gaz, est obligée d'importer son gaz naturel de l'étranger. Elle est donc soumise aux variations du prix du gaz sur les marchés de gros internationaux. Et il se trouve que la demande actuellement à l'international est très forte, notamment avec la reprise économique post-Covid en Asie.
Pour ne plus subir ces hausses,
qu'est-ce qu'on peut faire ?
Vous pouvez changer de fournisseur. C'est gratuit, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Avantage, vous pouvez passer au prix fixe.
Voilà, c'était Xavier Pinon qu'on entendait, cofondateur, comparateur à Selectra. Et c'était un sujet de LCI en septembre dernier. Donc on le disait tout à l'heure, les prix ont augmenté de 500% depuis le début de l'année. Et donc ça se traduit quand même aussi beaucoup sur la facture des Français. Patrice Geoffron, qu'est-ce qui explique cette augmentation, clairement? Et est-ce qu'on peut encore attendre une très très forte hausse du prix du gaz naturel dans les mois qui viennent?
Alors l'augmentation s'explique d'une part par un fort rebond économique en sortie de crise sanitaire, si on n'était pas en plein rebond.
Ouais.
Mais en tout cas, dans courant 2021. Et puis, par ailleurs, dans ce cadre, la concurrence que j'ai déjà évoquée avec l'Asie, en particulier avec la Chine. Alors, en Chine, il s'est passé toute une série de choses, notamment avec des inondations dans des centrales à charbon qui ont réduit la disponibilité du charbon. Et puis, par ailleurs, globalement, il y a cet effort chinois également de réduire les émissions et la pollution de l'air qui crée une tension sur la demande de gaz.
Et la hausse va clairement se poursuivre?
Il faut s'attendre à ce que les mois à venir soient compliqués en fonction des difficultés de l'hiver. Et évidemment, c'est assez tragique d'en être rendu ici. Il me semble que parmi les difficultés que nous avons derrière nous, certaines ont été évoquées dans la prise de parole à l'instant. Dès lors qu'on dépend à 99,5% d'une ressource, ça vaut aussi bien pour le pétrole que pour le gaz, il faut s'attendre à ce type de choc. Donc ça doit encore plus nous déterminer dans la transition. Il me semble quand même que compte tenu du poids du chauffage pour les ménages, il y a également un autre problème qui est contingent, qui est le retard qui a été pris sur l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le logement. On a encore, au moment où nous parlons, 4,8 millions de logements qui sont classés F ou G, statistiques officielles. Et évidemment, tout ça nous met à la merci de ce type de choc.
Sachant que le gouvernement a fait beaucoup d'annonces, notamment sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements. Mais est-ce que, Anna-Léna Rebaud, vous considérez ça comme des énièmes annonces et promesses qui ne seront pas concrétisées?
On attend toujours de voir la mise en œuvre. Et je voudrais juste rebondir sur ce que disait Patrice Geoffron, parce que c'est intéressant de voir aussi que l'augmentation des prix du gaz et les problèmes d'importation viennent aussi d'événements climatiques extrêmes. Donc là, on a parlé des inondations en Chine. Il y a aussi le fait qu'il y a eu un été très chaud, puis un hiver très froid, qui fait mécaniquement augmenter la demande de gaz. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte à l'avenir, en fait. Ça va continuer. Donc ça va pareil continuer à influencer sur les importations de gaz, d'où la nécessité de réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
Oui. La France, pardon.
Non, parce que tout ça, excusez-moi, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, tout ça couplé aussi, Anna-Léna Rebaud, au fait qu'aujourd'hui, la demande ne baisse pas, donc la consommation en énergie ne baisse pas, ça veut dire qu'en fait, inéluctablement, il va y avoir de nouveaux champs gaziers à explorer, et il va y avoir de nouvelles explorations à faire et de nouveaux projets. Alors, je crois que Bruno Le Maire en France a dit que la France ne s'engagera dans de nouveaux projets gaziers que s'ils sont vertueux, je crois. Est-ce que c'est, d'une part, c'est possible et qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Nous, notre analyse, c'est exactement l'inverse. C'est qu'il faut réduire la dépendance au gaz fossile. Et donc, pour ça, en fait, il faut plus développer de nouveaux champs gaziers. Et il faut agir, justement, sur notre consommation. En fait, il faut réduire drastiquement la consommation. Ça passe par de l'efficacité énergétique, mais ça passe aussi par la transformation de secteurs entiers, dont le secteur des engrais, comme je disais tout à l'heure.
Patrice Geoffron, la position de la France, elle est là aussi assez ambiguë finalement, hein, sur le gaz naturel et sur l'énergie fossile en même temps. C'est pointé du doigt par les ONG environnementales. environnementale précisément, sur le fait que la France, même en souhaitant faire inscrire le gaz naturel dans la taxonomie verte de l'Europe, va tourner le dos finalement aux efforts climatiques. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une affaire qui est assez compliquée parce que j'imagine que derrière tout ça, il y a des tractations entre le gaz, le nucléaire, dans le cadre de la taxonomie, et ça nous emmènerait sans doute assez loin. Je ne suis pas certain d'ailleurs d'avoir toutes les informations.
Alors simplement, le fait que la France souhaite faire inscrire le gaz naturel sur la liste, justement le classement, la classification de taxonomie verte de l'Europe, ça vous inspire quoi ?
Écoutez, à nouveau, le diable va se cacher dans les détails. Ça va dépendre des types de gaz. Et à nouveau, ça nous conduit à réfléchir sur ce qu'est un gaz vert comparativement à un gaz fossile.
Mais là, on parle bien du gaz. Pardon, mais on parle bien du gaz fossile.
Oui,
hein,
je sais bien, mais il y a un enjeu.
C'est pas totalement antinomique, en fait, tout simplement.
Mais il y a un enjeu qui est lié également à la manière dont on peut, à l'avenir, continuer à utiliser cette fois avec un gaz qui serait plus vert, un certain nombre d'infrastructures qui sont là, qui existent, notamment des tuyaux, et qui ont, j'allais dire, historiquement d'ailleurs, leur contenu en carbone. Il a fallu les construire, les enterrer, etc. Donc on a un intérêt collectif à ne pas en faire des tuyaux vides. Donc l'enjeu par rapport à ça, c'est un enjeu dans lequel on parvient à maintenir ces infrastructures et parallèlement, évidemment, sinon ça n'a aucun sens, à monter en puissance sur les gaz verts. Simplement, je voudrais faire référence à une étude de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est pas une ONG, qui en 2018 a déployé différents scénarios qui indiquent qu'en 2050, la France pourrait aller jusqu'à couvrir l'intégralité de ses besoins en gaz par du gaz vert. Donc il peut être notamment du biométhane ou il y a d'autres technologies, la pyrogazéification, on ne va pas entrer sans doute ici dans ces détails, mais qui pourrait nous conférer une autonomie dans ce domaine. Et évidemment, tout ça n'a de sens que mis en parallèle avec des efforts d'efficacité absolument considérables, parce qu'à l'avenir, que le gaz soit gris ou vert, même s'il était vert, il faut évidemment que tout ça s'inscrit dans un scénario d'efficacité.
On y reviendra, parce que là aussi, sur la méthanisation, il y a des problèmes qui se posent, de méthane aussi, de fait de consacrer aussi bien de la terre précisément à ces énergies renouvelables. Anna Lena Rebaud, quand même un mot encore sur la classification européenne, parce que l'intérêt pour la France, c'est clairement d'avoir des investissements européens. Si le gaz naturel est classé justement dans cette taxonomie verte, l'Europe pourra payer la France, de lui donner les financements.
Et donc elle pourra l'explorer tranquille là où elle veut, c'est ça ?
En fait, le fait que la France pousse le gaz dans la taxonomie, c'est quand même principalement pour pousser le nucléaire aussi. L'enjeu derrière, c'est d'obtenir des financements pour financer le développement de la filière nucléaire, qui est extrêmement coûteuse. Donc il y a cet enjeu-là. C'est pas anodin que la France pousse pour le gaz.
Donc il y a nucléaire et gaz naturel qui vont ensemble finalement sur ce dossier.
Il y a un intérêt mutuel. En fait, il y a eu un vrai échange de procédés entre les pays pro-gaz en Europe de l'Est et les pays pro-nucléaire comme la France.
Et on verra le 22 décembre donc si la France y est parvenue, parce que l'Europe donnera justement les termes de cette taxonomie verte, pour reprendre ce terme de biologie au sujet des énergies.
Pierre-Marie, sur l'application France Inter, nous écrit « Naturel ou non, bio ou non, fuite de méthane ou pas, pour fournir de l'énergie, le gaz doit réagir avec le dioxygène de l'air et produit obligatoirement donc du dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre. Est-ce que c'est vrai ça, Patrice Geoffron ?
Ben oui, ça émet du CO2. Donc, je suis extrêmement prudent, étant prof d'économie, je ne vais surtout pas m'engager sur le terrain de la chimie. Mais évidemment, lorsqu'on brûle du méthane, du CH4, un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, on émet du CO2. Donc jusque-là, on est tout à fait d'accord. La question est de savoir comment a été produit ce méthane que l'on brûle. Donc s'il est fossile, on a des émissions de CO2 une contribution à l'effet de serre. S'il a pu être produit notamment via une voie de méthanisation, l'usage de déchets agricoles, à ce moment-là, on a un bilan qui peut être différent. Modulo, tout ce que vous avez évoqué à demi-mot sur, évidemment, la problématique des émissions de méthane, s'il y en a, puisque finalement, c'est la même molécules, et puis la manière dont tout ça vient s'insérer dans un milieu localement, ça échappe pas au débat sur globalement sur les renouvelables et où les mettre.
Ouais. Et l'accaparement des terres donc, précisément. C'est-à-dire qu'on peut accaparer des terres spécifiquement pour faire ces énergies bio.
En France, le mécanisme, la réglementation est une réglementation qui est assez exigeante, notamment à la différence de l'Allemagne. On a pris le parti, et ça me paraît vraiment très bien, hautement souhaitable, de ne pas transformer nos fermes en nos agriculteurs en producteurs d'énergie. Mmh. Et donc, il y a des contraintes sur les ressources, les cultures qui sont dédiées à la méthanisation, mmh. je crois, sont limitées dans un ordre de grandeur d'une quinzaine de pourcents. Alors que la barre est plus haute en Allemagne, mais évidemment, on n'échappe pas globalement à ce débat sur ce qu'on fait de nos espaces naturels.
Camille, avant la pause, un petit mot.
Non, c'est juste, vous avez parlé taxonomie, effectivement, c'est le terme biologique, mais là, en l'occurrence, c'est pour parler des taxes, c'est de l'argent.
Exactement. Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre dossier sur le gaz naturel. Elle panique et vous avez reconnu la voix d'Olivia Ruiz.
France Inter, la Terre au carré.
Bonjour, je m'appelle Amine, je suis ingénieur. C'est pour partager mon expérience sur le lobbying et le greenwashing qui a été effectué en Algérie et dans beaucoup de pays du tiers-monde. À un certain moment, il y avait un débat sur le gaz de schiste et sur la nécessité de l'exploiter ou pas. À cette époque, Total et ses concurrents ne se sont pas gênés de faire du greenwashing au sein des universités en disant tous les bienfaits du gaz de schiste et en omettant les impacts réels sur l'environnement.
Merci beaucoup Amine pour ce message reçu donc sur l'application France Inter. Anna Léna Rebaud pour lui répondre, ce qui nous permettra aussi de préciser ce qu'est le gaz de schiste par rapport au gaz naturel.
Oui. Du coup le gaz de schiste, entre gaz naturel, gaz de schiste, gaz de couche, gaz de charbon, en fait ça dépend de la
façon de le produire finalement.
De la géologie en fait, de où se trouve ce gaz. Enfin le gaz de schiste ça va être dans des roches, le gaz de couche ça va être entre les couches de charbon. Et sur le lobbying, effectivement en fait c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on parle du mythe du gaz comme énergie de la transition. En fait l'industrie fossile n'a aucun intérêt à cesser de produire du gaz. Et ça se voit dans les dépenses de lobbying qui sont faites. On a parlé de la taxonomie. Vous pouvez regarder, l'ONG Reclaim Finance a répertorié en fait le lobbying qu'il y a eu de la part de l'industrie fossile là-dessus. C'est gigantesque. À la COP26, il y avait plus de 500 représentants de l'industrie fossile qui étaient présents sur place. Si ça avait été une délégation officielle, c'était la plus grande délégation présente à la COP26.
Patrick Geoffroy, offre. On n'a pas parlé des États-Unis encore depuis le début de l'émission. Quelle place ils ont justement dans ce marché du gaz fossile?
Bah déjà, premièrement, ils ont une place alors qu'ils devaient ne plus en avoir. En fait, ils s'étaient préparés avant le surgissement du gaz de schiste à partir de 2007 environ, en tout cas dans les statistiques. Ils s'étaient préparés à importer massivement du gaz sous forme liquéfiée. Tout à coup, vraiment, au sens premier du terme, ils sont devenus non seulement producteurs très riches et potentiellement...
Les rois du pétrole, du gaz.
Et du pétrole également, potentiellement exportateurs. On a vu ce que ça a pu donner sous l'ère Trump, avec une pression qui a été exercée sur les Européens, notamment sur les Allemands. Telle manière à acheter du bon gaz américain plutôt que de l'importer
de Russie, par
de Russie, ce qui est pas totalement, enfin ce qui a été dit de manière un peu abrupte à Madame Merkel,
ouais.
Et ce qui vient conforter l'idée qu'au milieu de tout ça, finalement, l'Europe est insérée sans réel poids et sur le gaz et sur le pétrole, sur la manière dont se forment les prix et sur les approvisionnements, et ce qui vient conforter la nécessité d'une transition, évidemment.
Avec des enjeux géopolitiques très importants et donc cette dépendance à la Russie que l'Europe et la France en particulier va essayer de résoudre dans les années qui viennent. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Anna-Léna Rebaud pour les Amis de la Terre et Patrice Geoffron, économiste. Merci d'être venu nous éclairer sur le gaz naturel que désormais nous appellerons le gaz fossile.
Très bien.
À bientôt.